Dans la Bible hébraïque, le livre de Daniel n'est pas mis au rang des prophètes, mais des écrits. Alors, vous connaissez sans doute cette tripartition de la Bible hébraïque. On a dû déjà vous en parler, je suppose. Donc, la Torah, les prophètes et les écrits, hein, Torah, Nevim, Ktuvim. Et si vous ouvrez une Bible en hébreu, le livre de Daniel est rangé à la fin, donc avec les autres écrits et pas avec les prophètes. Pourtant, dans l'Antiquité déjà, Daniel est considéré comme un prophète. Alors Flavius Josèphe, qui est un auteur juif du deuxième siècle. Alors attendez, pardon, il y a quelqu'un qui demande à rentrer. Et alors je pense que je peux pas la voir. Touk. Voilà, on reprend. Donc, dans l'Antiquité, Joseph est considéré comme un prophète. Donc, Flavius Joseph, qui est, comme vous le savez, un auteur juif du deuxième siècle, déclare que Daniel est l'un des plus grands prophètes. Alors, pour la raison que non seulement il prophétise des choses futures, comme le font d'autres prophètes, mais aussi il a fixé le temps auquel ces choses doivent advenir. Plus encore, selon Flavius Josèphe toujours, Daniel mérite d'être remarqué parce que c'est un prophète qui prophétise des choses bonnes, des choses heureuses. Voilà, donc ça, on trouve ça dans les Antiquités juives, au livre 10, numéro 236 à 268, selon la numérotation la plus couramment utilisée, celle de... voilà, la numérotation la plus couramment utilisée. Daniel est aussi appelé prophète dans le Nouveau Testament. En Matthieu 24, 15-16, on entend Jésus dire: Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, ceux qui sont en Judée, qu'ils s'enfuient des montagnes. Donc Matthieu 24, 15, Daniel qualifié de prophète, avec une citation de Daniel faite par Jésus lui-même. Comme on le verra, le livre de Daniel est très important pour le Nouveau Testament. Pourtant donc, Daniel fait partie des écrits dans la Bible hébraïque. Alors, l'explication de cela qu'on donne d'habitude, c'est que au moment où le canon de la Bible hébraïque se fixe, eh bien, le nombre des prophètes est déjà fixé pour ce canon, à l'époque où Daniel y a été incorporé. Et d'ailleurs, la tradition juive ultérieure a trouvé un peu des justifications à cela. Ainsi, le rabbin Maïmonide, qui est un rabbin séfarade né à Cordoue, actif en Égypte au XIIe siècle, déclare que Daniel n'est pas tout à fait un prophète, puisqu'il a reçu des révélations en songe, en rêve, et non directement par Dieu, comme les autres prophètes, comme Isaïe, que vous avez déjà lu. Alors, d'où vient que, quand vous ouvrez une Bible catholique, vous trouvez Daniel, non pas au milieu des autres écrits, des écrits de sagesse, mais vous le trouvez au contraire après Ézéchiel. Hein, vous savez, donc dans la Bible catholique, vous avez donc le Pentateuque, les livres dits historiques, à partir de Josué jusqu'au deuxième livre des Chroniques, et ensuite vous avez les prophètes. On commence par les trois grands prophètes, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et ensuite, on a Daniel, et puis les 12 petits prophètes. Et à la fin, dernier petit prophète, Malachie, on commence le Nouveau Testament. Alors, Daniel a été placé au milieu, à la charnière, entre les trois grands prophètes scripturaires que sont Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, et avant les 12 petits prophètes. Cet ordre-là, vous savez, il vient de la Vulgate, et il vient du fait aussi que dans la Bible grecque, dans la Bible des Septante, eh ben Daniel a cette place juste après Ézéchiel, donc à l'intérieur du corpus prophétique de la Bible grecque. Alors, en gardant toujours un peu cette ligne de fond de savoir ce qu'est un prophète, pourquoi Daniel est dans les prophètes, je vous propose un petit parcours en trois temps. D'abord, je ferai une présentation un peu générale du livre de Daniel, de ses divisions internes, ses caractéristiques propres. Je donnerai peut-être quelques éléments de l'histoire de la rédaction. Ensuite, je vous propose la lecture de deux petits chapitres. Alors, je vous avais proposé de lire les chapitres 1, 5, 7 et 10. Là, je vais surtout aborder les chapitres 5 et 7 qui sont très importants pour nous. Le chapitre 1, vous verrez, c'est une introduction générale au livre, donc il est bon de l'avoir lu. Chapitre 10, je ne vais pas trop revenir dessus parce que je ne pense pas avoir le temps de le faire. Mais bon, je dirais peut-être une ou deux choses. Et puis, bon, voilà, peut-être en conclusion, j'aborderai la question du rapport du livre de Daniel au Nouveau Testament. Hein, donc, trois temps, présentation générale, chapitre 5, chapitre 7 et conclusion. Alors, présentation générale du texte du livre de Daniel. D'abord, le texte. Le texte de Daniel, dans la Bible hébraïque, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, d'un petit peu complexe, et en même temps très intéressant. La première caractéristique du livre de Daniel, tel qu'il apparaît dans notre Bible, dans une Bible catholique, hein, si vous prenez la Bible de la liturgie par exemple, ben vous voyez que le livre de Daniel est en fait, la traduction qu'on en a vient d'un livre trilingue. En effet, on a la traduction d'un premier ensemble qu'on trouve aussi dans la Bible juive et des suppléments qu'on a dans la Bible grecque. Alors, je dis la Bible juive parce que, et pas la Bible hébraïque, enfin, voilà, on peut chipoter sur cette appellation, parce qu'en fait, le livre de Daniel, déjà dans la Bible qu'utilisent les Juifs, est en deux langues. Donc ça, vous l'avez peut-être vu dans vos propres Bibles, mais le chapitre 1 est rédigé en hébreu, ainsi que les premiers versets du chapitre 2. Le chapitre 2, dans sa majorité jusqu'au chapitre 7 inclus, est rédigé en araméen, et les chapitres 8 à 12 sont rédigés en hébreu. Donc alors, beaucoup d'encre a coulé hein, parmi les exégètes pour savoir s'il a existé une version unilingue de cet ensemble des chapitres 1 à 12. Et déjà, dans des fragments des manuscrits de la Mer Morte, on a trouvé 8 fragments du livre de Daniel, le livre de Daniel qu'on connaît, dans lesquels est déjà attestée cette alternance entre hébreu et araméen. On a un fragment où se trouve le verset 4 du chapitre 2 où se fait le passage de l'hébreu à l'araméen, et on a deux fragments dans lesquels est attesté le passage de l'araméen à l'hébreu, donc au chapitre 8, verset 1. Donc voilà, ça c'est la première chose dont il faut bien prendre conscience, c'est qu'on a, on a deux langues déjà dans la Bible hébraïque. Ensuite, le texte biblique que nous avons, qu'on utilise comme texte canonique catholique, comporte des suppléments. Alors au chapitre 3 se trouve le cantique d'Azarias, que vous connaissez pour le chanter dans les Laudes, ainsi que le cantique des trois enfants, que l'on chante tous les dimanches 1. Et puis, je vous ai parlé dans la Bible hébraïque, donc du chapitre 1, des chapitres 2 à 7 et des chapitres 8 à 12. Vous verrez que dans vos Bibles, vous avez en plus un chapitre 13 et un chapitre 14. Alors, ces deux chapitres supplémentaires qui ont été ajoutés proviennent en fait de la Bible grecque. Le texte grec du livre de Daniel a lui-même une histoire un peu compliquée. Je vais essayer de faire simple et rapide. La version qui a été utilisée, enfin que nous utilisons nous pour la Vulgate, version utilisée par Jérôme, est en fait une version assez tardive de la Bible grecque, à laquelle on donne le nom ordinairement de version de Théodotion. Alors Théodotion, c'est une version grecque de l'Ancien Testament que l'on date ordinairement du 2e siècle après Jésus-Christ, C'est une version connue de Origène, elle apparaît dans les exemples. Et alors, on la date traditionnellement du IIe siècle, mais c'est un peu complexe parce que il doit exister une version en fait grecque de la Bible déjà en usage très proche de celle de Théodotion avant le IIe siècle, puisqu'on trouve des citations de livres bibliques selon cette version de Théodotion dans le Nouveau Testament, par exemple. Et donc, c'est la version qui est traduite par Jérôme dans la Vulgate, et c'est la version qu'on a, nous, dans nos Bibles. Alors, dans ce texte grec, en plus du livre donc des 12 premiers chapitres du livre de Daniel, sont ajoutés à la fin deux petits livres, deux petits livrets, qui font partie en fait de ce qu'on va appeler la littérature daniélique. Ces deux petits livrets, vous le savez, c'est le texte de Suzanne et le texte donc, qui constitue le chapitre 13 du livre de Daniel. Et pour nous, le texte du chapitre 14, qui est aussi une histoire où apparaît, une histoire édifiante où apparaît le personnage de Daniel, qu'on appelle traditionnellement le texte de Bel et le dragon. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, en réalité, le texte de Daniel qui est présent dans la Bible hébraïque fait partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle la littérature daniélique, dont sont témoins aussi les deux textes donc de Suzanne et de Bel et le Dragon, mais dont sont témoins aussi d'autres textes qui sont connus notamment par les manuscrits de la Mer Morte, notamment un texte très célèbre, enfin très célèbre dans le milieu de la Bible, si vous voulez, qu'on appelle la prière de Nabonide. Alors Nabonide, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, j'espère que ça sera plus clair plus tard, parce je vais revenir dessus. Nabonide, c'est le dernier des rois de Babylone. Alors on reviendra là-dessus, je vais revenir un peu sur le contexte historique pour remettre un peu les pendules à l'heure si c'est pas clair pour tout le monde. Donc voilà pour le texte de Daniel. Donc vous voyez qu'on a un texte trilingue, hébreu, araméen et grec, dont la concrétion, si vous voulez, constitue le texte de notre Bible catholique. Alors, si vous voulez, si vous avez des questions sur l'alternance entre hébreu et araméen dans la Bible juive, je pense pour ma part qu'il n'y a pas eu de version unilingue et que c'est sans doute pour des raisons liées au contexte historique de la rédaction que l'on a cette alternance entre les deux langues. Voilà. Les linguistes parlent souvent d'alternance codique, hein, code switching, qui produit aussi un effet littéraire qui est voulu sans doute par l'auteur du livre de Daniel. Voilà. Alors maintenant, j'en viens aux divisions internes de ce livre. Alors, le livre de Daniel dans la Bible hébraïque se laisse aisément diviser en deux parties. En général, on sépare les chapitres 1 à 6 des chapitres 7 à 12. Et les chapitres 13 et 14, donc on l'a vu, constituent un ensemble à part. Les chapitres 1 à 6 comportent une série d'histoires édifiantes. Alors, je dois admettre une nouvelle. Les chapitres 1 à 6 comportent une série d'histoires édifiantes dont l'action se déroule sur le théâtre de la cour royale de Babylone. Et les chapitres 7 à 12 comportent une série de visions. Donc deux choses complètement différentes. Alors vous repérez au passage que cette division ne correspond pas à la division linguistique entre hébreu et araméen. Alors, les histoires édifiantes elles-mêmes ne sont pas vraiment reliées entre elles, si ce n'est par leur introduction commune, que constitue le chapitre 1 que normalement vous avez, enfin que sans doute vous avez lu. Dans ce chapitre 1, vous avez un peu une forme d'exposition avec une présentation des personnages, présentation de Daniel et de ses trois compagnons comme des jeunes gens instruits présents à la cour du roi Nabucodonosor. Voilà, ce sont les personnages qu'on retrouve dans les chapitres suivants. Et ce chapitre 1 permet de faire le lien entre ces différentes histoires, sachant par exemple que les trois compagnons de Daniel, qui apparaissent dans le chapitre 3, eh bien, ils apparaissent alors que Daniel est complètement absent de ce chapitre 3. Donc voilà, c'est ce qui fait dire à certains exégètes qu'en fait, les six chapitres d'histoire édifiante sont en fait un petit recueil d'histoire qui a été unifié par l'ajout du chapitre 1 comme introduction à ces six chapitres. Donc, histoires édifiantes qui ont toute une trame assez similaire. Au chapitre 2, Daniel révèle au roi Nabucodonosor le sens de son rêve, qui est le rêve du colosse au pied d'argile. Chapitre 3, les trois jeunes gens sont jetés dans la fournaise, où ils chantent le cantique des trois enfants. Au chapitre 4, Daniel interprète un nouveau songe du roi Nabucodonosor. Cette fois-ci, c'est le songe du grand arbre, où il est prédit notamment à Nabucodonosor. Enfin, c'est un songe qui concerne l'hubris du roi Nabucodonosor qui finalement se repent. Et au chapitre 5, Daniel interprète l'inscription sur le mur lors du festin de Balthazar, présenté dans le texte comme le fils de Nabucodonosor. Et enfin, au chapitre 6, Daniel, discrédité, est mis dans la fosse aux lions par le roi Darius et il est finalement sorti de cette fosse et couvert d'honneur. Donc, dans toutes ces histoires, on voit réapparaître des sortes de trames types dans lesquelles on a soit une interprétation des rêves, soit des rêves d'un roi dans le sein d'un contexte de cour, d'une cour royale, soit un innocent ou des innocents persécutés, jetés dans une fosse, à cause de leur fidélité au Dieu d'Israël. Dans tous les cas, l'issue de l'histoire est édifiante, elle est positive pour le ou les héros juifs. Ils sont sauvés de la fosse, ils sont couverts d'honneur par le roi, alors même qu'ils sont étrangers, alors même qu'ils ont un culte différent de celui du roi, etc. Alors cet ensemble de ce type d'histoire qui se passe dans une cour où les étrangers sont finalement honorés, c'est un type d'histoire assez courant dans le Proche-Orient ancien, et même dans la Bible, hein, puisque c'est un type d'histoire qui est utilisé aussi, par exemple, pour l'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse. D'autre part, dans la Bible, on peut rapprocher ce type d'histoire édifiante du livre d'Esther, ou bien, hors de la Bible, il y a un recueil relativement connu, qui est une histoire égyptienne, la sagesse d'Achikar, où Achikar donc, est un sage araméen mis à l'honneur à la cour du pharaon. Donc voilà pour les histoires édifiantes. Les visions, elles, succèdent aux six premiers chapitres, aux histoires édifiantes. La première occupe le chapitre 7, la deuxième le chapitre 8, la troisième le chapitre 9 et la quatrième les chapitres 10 à 12. Alors, quatre visions qu'on peut grouper elles-mêmes en deux ensembles. Un premier ensemble constitué par les chapitres 7 et 8, dans lesquels on a des visions à partir d'un songe et qu'on qualifie de vision symbolique. C'est-à-dire que ce qui est vu par le voyant, ce sont des actions ou des images qui symbolisent quelque chose d'autre. En revanche, dans les chapitres 9 à 12, donc la troisième et la quatrième vision, le cadre n'est pas le même, puisque le voyant n'est pas dans un rêve, et il ne s'agit pas de vision symbolique, mais de vision qu'on va qualifier de vision d'épiphanie. En effet, dans ces visions-là, un être surnaturel apparaît, un ange, qui vient délivrer un message. Voilà, donc vous avez dans ce chapitre notamment l'ange Michael qui apparaît, l'ange Michel. Ou au chapitre 9, l'ange Gabriel. Ok, donc vous pouvez retenir un peu cette division, cette bipartition entre deux visions symboliques et deux visions dites d'épiphanie. Alors, on reviendra là-dessus, si on a le temps. Alors, les contextes historiques. Alors, pourquoi je dis les contextes historiques ? Parce que on va, pour lire le livre de Daniel, il est bon d'avoir une idée du contexte historique des événements décrits dans les six premiers chapitres. Donc, une idée de ce que signifie d'avoir des Juifs à la cour du roi de Babylone. Et d'autre part, le livre de Daniel est un des livres qui est le plus inséré dans un contexte historique de sa rédaction. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Puisque l'action des histoires édifiantes prend place dans le contexte de la cour de Babylone. Alors, petit rappel historique, vous savez que le royaume de Juda et le royaume d'Israël ont connu deux événements marquants pendant lesquels ils ont été envahis par les puissances venant de l'Est. Alors vous voyez sur cette carte, je vous l'ai mise parce que alors elle est un peu c'est l'histoire un peu trop ancienne pour nous, mais je vous l'ai mise parce que vous voyez Achour et Chaldéens sur cette carte. C'est pour bien que vous puissiez situer les Chaldéens, Chaldéens. Vous voyez un peu au-dessus, vous avez Borsippa et Akkadou, entre crochets, Babylone. Voilà, Babylone, ça se situe à cet endroit-là, donc au sud de l'ensemble constitué par l'Empire néo-assyrien à l'époque. Et comme ça, vous voyez où c'est par rapport à Juda, donc de l'autre côté à l'ouest. Alors, les Juifs, donc les élites juives, ont été exilées en 587 à Babylone, emmenés par le roi Nabucodonosor, qui est donc un peu le fondateur de cet empire appelé néo-babylonien. Voilà, cette carte comporte une petite erreur, hein, puisque les néo-babyloniens ne sont pas allés en Égypte, hein, contrairement à ce que vous voyez ici. Et donc voilà, Daniel, dans le livre, est présenté comme un des personnages d'une des familles d'exilés à Babylone. Alors, là, vous voyez sur ce petit ensemble les différentes dynasties. Alors, je suis désolé, mais les titres sont en italien. Donc, en rose, vous avez les rois néo-assyriens, ça, on ne s'en occupe pas. En dessous, en orange, dynastie néo-babylonienne. Ça nous intéresse. Alors, vous voyez, le premier est Nabopolassar, qui est le père de Nabucodonosor. C'est lui qui commence à donner des coups de boutoir dans l'Empire néo-assyrien et qui le fait tomber, qui fait tomber la capitale de Ninive. Son fils, Nabucodonosor II, c'est celui qu'on va retrouver donc dans le livre de Daniel. Et voilà, Nabucodonosor, c'est un roi avec un empire immense et qui a une très forte aura dans la littérature du Proche-Orient ancien. Mais alors ensuite, vous voyez Amil Marduk, Neri Glissar, Labashi Marduk. Donc, ce sont à chaque fois les fils les uns des autres. Et à la fin, vous avez Nabonide. Donc, Nabonedo en italien, Nabonide. Nabonide, dont je vous ai dit qu'il avait fait une prière dont on a un texte dans les manuscrits de la Mer Morte à Qumran. Alors, pourquoi je vous mets ça, c'est qu'au chapitre 5, vous voyez un personnage apparaître, il s'agit de Balthazar. Balthazar est en fait le fils de Nabonide, à qui Nabonide avait confié la charge de la régence à Babylone, alors que lui-même était parti en Arabie. Voilà, Nabonide a passé une partie de sa vie, alors qu'il était encore roi, dans l'oasis de Taïma, en Arabie, actuellement en Arabie Saoudite. Donc, tout ça pour voilà. Et vous voyez que celui qui met fin à l'empire néo-babylonien, c'est Cyrus le Perse, Cyrus II. Or, on verra que dans le livre de Daniel, alors attendez, je crois qu'il y a des gens qui essayent de rentrer. Oui, voilà. Voilà, donc dans le livre de Daniel, la succession des rois est un peu plus bousculée. C'est-à-dire que Daniel passe une partie de passe c'est d'histoire en histoire, en étant à la fois sujet de Nabucodonosor, puis de Balthazar au chapitre 5, puis de Darius qui est donc un des successeurs de Cyrus. Voilà. Darius le Perse. Donc, voilà, vous voyez que pour ce qui concerne cette période du 7e siècle, le livre a quelques petites incohérences. Alors, oui, donc ça, c'est l'empire de Cyrus le Grand, justement. Vous voyez, qui reprend l'ensemble de l'empire babylonien. Alors, le livre de Daniel, d'autre partie, les visions, font allusion à tout un ensemble d'événements qu'on identifie assez bien avec des événements de la période hellénistique. Donc, des événements de la période qui vient après après l'Empire perse, donc après le 4e siècle, jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Et on constate que l'auteur a une réelle familiarité avec les événements de cette période. Enfin, il y a une expression qui revient à plusieurs reprises dans ces visions. Cette expression, c'est l'abomination de la désolation. Expression qui est reprise dans les évangiles, dans le petit passage que j'ai cité au début, donc Matthieu 24, 15, l'abomination de la désolation, qu'on retrouve dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27, chapitre 11, verset 31, et chapitre 12, verset 11. Et cette expression pourrait faire allusion à la profanation du temple de Jérusalem par le roi Séleucide Antiochos IV Épiphane, dans les années 160 avant Jésus-Christ à peu près. Alors pourquoi on pense à ça? Parce que abomination de la désolation, l'expression utilisée en hébreu c'est Shikutz Shomem, et il y a peut-être un jeu de mots avec le fait que le roi Antiochos IV Épiphane, qui se prenait lui-même, comme son nom l'indique, pour une manifestation de Zeus, ait voulu imposer dans le temple de Jérusalem le culte de Zeus Olympios, pris sous l'épiclèse de Baal Shamem. Donc Baal du ciel, Baal Shamem, d'où le jeu de mots Shikut Shomem, ce qui signifie abomination créant la désolation. Alors, c'est cette connexion très forte entre le livre de Daniel et cet événement précis du IIe siècle avant Jésus-Christ qui a fait que, depuis, les exégètes ont l'habitude de dater l'ensemble du livre cette période des années 160, période qui constitue pour l'histoire d'Israël, vous le savez peut-être, le moment de la crise maccabéenne, c'est-à-dire le moment où les Séleucides, ayant une administration moins forte, un pouvoir moins fort, les Juifs vivent une forme de sursaut nationaliste, sursaut populaire conduit par une famille sacerdotale, la famille des Maccabées. Et donc, ils reprennent leur indépendance vis-à-vis des Grecs, hein, vis-à-vis des Séleucides. C'est peut-être qu'un indice de cette rédaction à l'époque de la crise maccabéenne est l'usage de l'hébreu, qui marque un usage identitaire, si vous voulez, de cette langue, du texte hébreu, dans lequel on aura introduit les contes populaires, peut-être plus anciens, mais mettant en scène le même Daniel en araméen. Et donc, on attribue à ce Daniel qui a une certaine aura dans le monde juif, l'ensemble des visions qui suivent et qui s'expliquent assez bien par cet événement des années 160. Voilà. Alors, on va commencer par à lire un peu une de ces histoires édifiantes. Alors, j'ai choisi le festin de Balthazar parce que, comme vous le voyez donc, dans cette peinture de Rembrandt, c'est une histoire qui a une certaine fortune dans l'histoire de la réception. Voilà, vous connaissez peut-être le poème de Heinrich Heine qui s'intitule « Le festin de Balthazar ». Et puis en français, hein, c'est comme ça. le faire un Balthazar, ça vient de là, hein, évidemment. Donc, alors je m'appuie plutôt sur le texte qu'on a dans les Bibles catholiques, parce que bon, ensuite il y a quelques variantes assez importantes entre le texte hébreu et le texte grec, mais je ne vais pas m'appuyer là-dessus. Donc, je pense que vous avez lu ce texte. Je vais peut-être juste redire un tout petit peu le début et replacer un peu le contexte. Donc, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000. Il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nabuchodonosor, avait enlevé au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître, en face du candélabre, les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Alors, la structure de l'intrigue est assez claire, assez simple. On a un roi sacrilège qui voit des signes mystérieux s'inscrire sur le mur. Les sages de la cour n'arrivent pas à comprendre ces signes et on fait venir Daniel, l'étranger instruit, qui réussit là où les autres ont échoué. Donc, il parvient à lire et à interpréter les signes écrits sur le mur. Et à la fin, comme vous l'avez vu, comme vous le savez, Daniel est exalté. Comme le dit le texte, Balthazar ordonna de revêtir Daniel de pourpre, de lui mettre au cou un collier d'or et de proclamer qu'il deviendrait le troisième personnage du royaume. Alors même que Daniel a prophétisé au roi sa fin, hein, comme vous le savez. Alors, d'abord un petit mot sur le sacrilège, c'est assez intéressant. Le sacrilège que commet le roi dans le texte, le régent dans l'histoire, Balthazar. Il boit dans les coupes du temple de les coupes sacrées du temple d'Israël, du temple de Jérusalem. Alors c'est un motif, c'est l'ustensile sacré, c'est un motif qui revient assez souvent au moment de l'exil. Vous l'avez, en fait, si vous avez une Bible sur vous, vous pouvez aller dans le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, au chapitre 27, dans lequel Jérémie prédit le départ en exil des ustensiles du temple et leur retour. Donc en fait, ces ustensiles du temple, dans le livre de Jérémie, ils sont un peu une figure du peuple d'Israël qui va partir en exil et qui va revenir. En réalité, on se rend compte que ces ustensiles du temple, c'est l'unique reste tangible d'Israël. C'est tout ce qui reste de caractère tangible de la continuité entre l'Israël qu'il y avait avant l'exil et l'Israël d'après l'exil. Donc c'est pour ça que c'est très important que ces ustensiles puissent revenir au temple pour qu'il y ait en fait une continuité du culte dans le temple d'Israël au moment où les exilés reviennent. C'est un motif qui est ensuite très important dans la tradition juive déjà à l'époque de Jésus, puisque aussi bien on attend à la fin des temps le retour du prophète Élie, on attend à la fin des temps le retour du grand prophète comme Moïse, et une tradition mentionne qu'on attend aussi à la fin des temps le retour du prophète Jérémie avec les ustensiles du temple de Jérusalem. Alors, pour tout vous dire, dans l'année dernière que j'ai passée à Jérusalem, un juif très pieux, qui était aussi mon professeur de karaté, me demandait « Mais alors, il paraît que les vases et le candélabre du temple de Jérusalem sont à Rome, au Vatican. » Alors bon, je lui dis qu'il y avait sans doute un sens spirituel à ça, mais il y croyait dur comme fer parce que c'est ce que lui avait dit son rabbin. Et donc, son rabbin était l'autorité qui portait toujours cette tradition du fait que les ustensiles du temple de Jérusalem doivent revenir. Cette vaisselle apparaît dans le récit du retour des exilés, dans le livre d'Esdras, au chapitre 1 et au chapitre 6, puisque le roi Cyrus, qui fait revenir les exilés, mentionne explicitement dans le décret de retour des exilés que les ustensiles doivent retourner au temple. Donc voilà, donc vous voyez que cette vaisselle sacrée fait partie des motifs de la littérature post-exilique pour manifester le lien entre Israël d'avant l'exil et Israël d'après l'exil. Alors, cette profanation pourrait acquérir une nouvelle pertinence au moment de l'acte de profanation d'Antiochus Épiphane, mais l'auteur n'a pas nécessairement cette situation à l'esprit dans ce cas précis, puisqu'il s'agit d'une profanation qui ne se fait pas à Jérusalem, mais qui se fait à l'étranger par un roi étranger, comme vous le voyez. Alors, ce qui est important de comprendre pour ce chapitre 5, comme vous le voyez, le contenu du message écrit sur le mur est provoqué par cet acte en fait d'hubris du roi Balthazar qui profane les ustensiles sacrés. Cette prophétie, je ne vais pas m'étendre dessus, vous la connaissez, compter, peser et diviser, contient certainement dans le dernier mot farcine, un jeu de mots, puisque farcine, qui veut dire diviser, est aussi un jeu de mots pour les Perses qui vont faire tomber Babylone. Et le roi Balthazar, régent de Nabonide. Cependant, plus profondément, il s'agit d'une réflexion sur la royauté. ce chapitre 5 est en fait un contrepoint du chapitre 4. Dans le chapitre 4, je vous l'ai dit, le roi Nabucodonosor, présenté ici comme le père de Balthazar, est considéré comme un roi orgueilleux, victime, qui fait montre d'hubris, une hubris démesurée qui fait qu'il est finalement réduit au rang de bête, d'un animal. Après avoir fait amende honorable et s'être repenti, le roi Nabucodonosor peut redevenir un roi humain et être un roi qui construit son royaume. En revanche, Balthazar, par opposition, si vous voulez, est un roi qui fait preuve d'hubris, mais qui ne se convertit pas. Et donc, son royaume est détruit. Donc voilà, ce thème de la royauté et de la royauté qui passe, des empires qui s'effondrent, est un des thèmes qui permet de faire le lien avec les visions apocalyptiques des chapitres 7 à 12, notamment avec le chapitre 7 qu'on va regarder maintenant. Comme vous le voyez, dans ce livre de Daniel, les royautés passent, les royautés humaines passent, parce que Dieu est souverain. Mais alors, il n'est pas anodin que ces chapitres 1 à 6 se déroulent dans des cours royales, justement. Dans des cours royales où un étranger instruit, sage, est mis en valeur. Il est mis en valeur à chaque fois pour la glorification du Dieu d'Israël. Mais alors, au chapitre 7, qu'on va regarder maintenant, justement, ce n'est plus un roi humain qui est un roi qui passe, qui va être présenté, mais un roi éternel, dont la royauté vient en fait, en définitive, de Dieu. Alors, on passe au chapitre 7, si vous voulez bien. Allez, je vois que je retourne. Le chapitre 7, qui nous ramène d'ailleurs à la première année du roi Balthazar, du roi de Babylone, au verset 1. Alors, vous voyez une petite suture dans ce livre, hein, puisque le chapitre 6 se passe sous Darius, donc sous l'Empire perse. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Cependant, ça permet de faire un nouveau lien avec les histoires édifiantes, hein, puisqu'on mentionne le cadre chronologique de Balthazar. Donc, ce chapitre 7, je vais pas vous le lire non plus en entier, est écrit en araméen et fait écho par son motif des quatre royaumes, non seulement au chapitre 5 qu'on vient de lire, mais aussi au chapitre 2, qui est le rêve du colosse au pied d'argile. Donc, je rappelle peut-être brièvement ce qui se passe dans ce chapitre 7. Daniel a une vision pendant son sommeil et il voit quatre bêtes énormes sortir de la mer. Voilà, donc vous savez, ça c'est un point important, hein, donc le fait que les quatre bêtes sortent de la mer. Quatre bêtes qui ont des aspects animaux, ce qui nous ramène aussi au chapitre 4, où le roi marqué par l'hubris devient un animal, devient une bête. Donc, quatre bêtes qui ont des aspects d'animaux hybrides sortent de la mer. Voilà, c'est donc une vision marquée par une forme de violence. Et la quatrième bête, notamment, dévore, déchiquette tout ce qui passe, déchiquette les trois autres bêtes, etc. etc. C'est une bête qui est identifiée ou caractérisée par le fait qu'elle porte des cornes. Voilà, ça c'est un motif qu'on retrouvera plus tard dans l'Apocalypse. Donc, première vision, les bêtes qui sortent, quatre bêtes qui sortent de la même. Ensuite, on voit dans le ciel un trône avec un vieillard, l'Ancien des Jours, et le fait que la domination est retirée aux bêtes, et elle est donnée à un fils d'homme qui avance sur les nuées du ciel. Donc je lis juste les versets 13 et 14. « Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » Voilà, donc ça c'est les deux versets peut-être les plus importants. Et ensuite, donc, dans la suite du chapitre, Daniel demande, enfin, et on a la réaction de Daniel qui est bouleversée, et un ange, un être surnaturel, à l'intérieur de la vision, lui donne l'interprétation de cette vision. Voilà, sachant que faisant correspondre les bêtes à des royaumes sur la terre et voilà, verset 27, la royauté, la domination, la puissance de tous les royaumes de la terre sont données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle et tous les empires le serviront et lui obéiront. Voilà. Ici finit le récit. Donc voilà, donc vision mettant en scène ces divers éléments. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus, on a beaucoup cherché l'arrière-plan culturel de cette vision, de ce type de vision, parce que là, en fait, on est dans une sorte de genre littéraire qui, pour la Bible, est relativement nouveau. Dans ces quatre visions du livre de Daniel. Donc, on a cherché un peu d'où viennent ces bêtes qui sortent de la mer, cette bête qui a des cornes, et d'où vient surtout cette image de fils d'homme qui marche sur les nuages et qui arrive à qui la domination est donnée. Alors, une première hypothèse avait été faite. Alors, voilà, donc ça, c'est Daniel 7, on reviendra dessus. Une première hypothèse avait été faite par un exégète allemand très célèbre qui s'appelle Hermann Gunkel, pour qui cette image du fils d'homme est à rapprocher de l'Enuma Elish. Donc l'Enuma Elish, c'est le récit dit de la création babylonienne, où en gros un des dieux, le dieu Marduk, prend possession du pouvoir divin, alors qu'il n'est pas lui-même le dieu des murges, mais il arrive sur les nuées, donc c'est ça qui constitue un peu le point de contact, et c'est lui qui se met à gouverner le monde entier. Alors, cet arrière-plan culturel, ça a fait couler énormément d'encre, notamment parce que, en gros, quand Hermann Gunkel a proposé cette hypothèse à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, on s'est demandé si, vous imaginez, ça a des conséquences, on s'est demandé si le fait de dire que, en fait, Daniel raconte un mythe, est-ce que ça veut dire que quand Jésus parle du fils de l'homme qui vient sur les nuées, est-ce qu'il raconte des salades, quoi ? Donc c'est un truc un peu assez important. En réalité, cette affirmation ne signifie pas que le fils d'homme qui descend du ciel dans Daniel est Marduk, mais au plus, au maximum, qu'il occupe la même fonction dans le contexte de la vision de Daniel, dans le récit, la même fonction que Marduk dans son propre mythe. Donc ça, c'est une distinction déjà élémentaire qui est parfois oubliée par les exégètes. Un deuxième point important, c'est qu'il est très clair pour nous qu'on ne lit pas le livre de Daniel comme un mythe païen, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de parallèles, enfin ça ne sert à rien de faire des parallèles si c'est pour... comparer une religion avec une autre. Voilà, c'est pas ça qui nous intéresse dans le livre de Daniel. Bon, alors, en réalité, cet arrière-plan culturel qu'on cherche doit quand même servir à éclairer le sens du texte de Daniel. Alors, à vrai dire, ça ne marche pas très bien avec les Nouma Elish, et c'est une hypothèse qui a été abandonnée assez vite, enfin, qui a été abandonnée dans les années 30, à partir de la découverte du site d'Ougarit. Alors, Ougarit, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un site qui se trouve, donc vous voyez sur la carte, un site qui se trouve en gros en face de Chypre, hein, tout au nord de la Syrie actuelle, vraiment à la limite avec la Turquie. Et Ougarit, c'est une cité qui a été complètement détruite au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc il y a très très longtemps, mais dans laquelle on a retrouvé en 1929, au moment des fouilles d'Ougarit, une très grande quantité de tablettes inscrites en argile. Bon, je ne reviens pas sur Ougarit en général, mais c'est, enfin voilà. Vous voyez une de ces tablettes qui, notamment, nous fait part du cycle de ce qu'on appelle le cycle de Baal. Donc, il y a un ensemble de mythes dans lesquels le dieu Baal, dont vous voyez une représentation sur une stèle trouvée à Ougarit sur la gauche de l'écran, dont le dieu Baal est le héros. Alors, le dieu Baal, en gros, c'est un dieu de l'orage, donc vous comprenez qu'il puisse être associé aux nuages. Et dans un texte d'Ougarit, le dieu Baal combat la mer qui s'appelle Yam. Et donc, voilà, on a un dieu qui vient sur des nuages, qui combat la mer, en gros. D'autre part, à Ougarit, on trouve un texte épique dans lequel apparaît un personnage nommé Dan-El. Alors, Dan-El, on a vite fait le lien avec Daniel, hein, effectivement. Ce qui veut dire que le personnage de Daniel, ainsi que cette imagerie utilisée dans ce chapitre 7 remonte en fait à des temps immémoriaux de la mythologie cananéenne. Alors peut-être y a-t-il un sens à trouver au fait que un auteur pieux juif utilise ce fond immémorial mythique pour exprimer quelque chose de cette vision. Il y a peut-être un sens à chercher dans le fait que justement il n'utilise pas les mythes mésopotamiens comme ceux-ci peuvent être utilisés dans d'autres livres bibliques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite, parce que j'ai d'autres choses à vous dire plus importantes. En fait, une chose plus importante à dire, c'est pourquoi quel sens ça peut avoir d'utiliser un mythe, et est-ce que ici, dans ce texte de Daniel, il s'agit vraiment d'une utilisation d'un texte mythique. En réalité, vous voyez bien que un mythe, c'est quelque chose qui simule une histoire, qui simule l'histoire, si vous voulez. C'est-à-dire que dans un mythe, vous avez un récit, mais qui ne correspond pas à l'histoire réelle. Voilà, c'est un récit complètement fictif. Donc le mythe, ce qu'il fait, c'est qu'il simule l'histoire, alors que le texte biblique, d'une manière générale, ne simule pas l'histoire, mais traduit l'histoire. Et c'est précisément ce qu'on a ici dans ce chapitre 7 de Daniel, puisque, comme je vous l'ai dit, Et comme le dit le texte de Daniel à la fin, ce texte, ce chapitre 7 en particulier, est extrêmement ancré dans l'histoire des royaumes, de ces fameux quatre royaumes qui représentent les différentes dominations que subit Israël. Donc, c'est pour nous quelque chose de très important que de voir que pour parler de l'action de Dieu dans l'histoire, eh bien, quelque part, on fait avec les moyens du bord. On peut pas utiliser, l'auteur ne peut pas utiliser un texte déjà fait. Il ne peut pas utiliser un simple reportage historique. Et donc, il va puiser dans ce matériel mythique pour arriver à dire quelque chose de nouveau à propos de la révélation du Dieu d'Israël. Alors, c'est quelque chose de très important, y compris ensuite pour tout ce qui est de l'utilisation de matériaux mythiques dans les textes bibliques en général. En fait, ce qu'essaye de dire le voyant, c'est quelque chose d'irreprésentable. Et c'est pour ça que voilà, il utilise ce matériau mythique en le détournant de sa fin première pour exprimer quelque chose de la révélation divine. Alors, c'est très important parce que pour nous, ça nous explique quelque chose du Nouveau Testament. Peut-être que vous avez le souvenir de la passion de Jésus dans l'évangile de Marc. Alors, on peut prendre dans les trois synoptiques, c'est le cas, mais en particulier dans Marc. Si vous prenez Marc au chapitre 14, versets 61 à 63, Jésus est donc devant chez le grand prêtre. Et voici ce qui se passe. Voilà, donc devant le grand prêtre, les faux témoins se succèdent. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit. Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Donc vous voyez que cette citation de Daniel 7, eh bien Jésus l'utilise. Alors, il l'utilise tout le temps dans sa prédication en se désignant lui-même comme le Fils de l'homme. Ça, je ne suis pas revenu dessus, mais je crois que vous l'aviez bien compris. Mais il utilise cette citation-là qu'il identifie à ce Fils de l'homme qui vient sur les nuées devant le grand prêtre. Et c'est ce qui provoque le fait que le grand prêtre entend quelque chose qu'il ne peut pas entendre. Justement, le fait que Jésus se présente comme celui qui vient du Père, celui qui vient d'au-delà de ce qui est représentable, d'au-delà de ce qui est visible. Et en même temps, comme celui qui s'inscrit véritablement dans l'histoire humaine, puisqu'il s'est fait homme. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais juste, en conclusion, voilà, on peut voir que dans ce livre de Daniel, vous avez cette représentation de l'irreprésentable, précisément par le fait que ce livre s'inscrit dans son contexte historique de sa rédaction, dans lequel il essaye ou il prophétise effectivement la venue de Jésus depuis cet au-delà du représentable, cet au-delà de l'histoire qui permet de porter toute l'histoire d'Israël.